Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était vendredi, en fin de journée, l'hélicoptère présidentiel américain Marine One décollait et emmenait Donald Trump à l'hôpital militaire Walter Reed pour le soigner après son test positif au coronavirus. À un mois de l'élection présidentielle et en fonction de l'évolution de l'état de santé du président américain, c'est incontestablement ce que l'on a coutume d'appeler la surprise d'octobre. Pour l'instant en tout cas, parce qu'il ne faut jurer de rien dans cette campagne. Celle-ci est bouleversée aussi bien pour Donald Trump que pour son adversaire démocrate Joe Biden. Quelles conséquences de la maladie et de l'hospitalisation de Donald Trump sur la campagne? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous sommes avec Anne Desine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis et auteur de l'ouvrage « Les États-Unis et la démocratie » aux éditions de l'Harmattan. Et également Steven Ekovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Vous êtes également politiste. Oui. Nous sommes aussi en ligne des États-Unis avec Anne Corpet. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyée spéciale permanente de RFI à Washington. On va commencer avec vous Anne, puisque chaque jour nous apporte son lot de surprises dans cette campagne. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez sur la situation du président Trump?
Alors, le président a émis le souhait de sortir de l'hôpital dès aujourd'hui, mais la décision ne sera prise apparemment qu'en fin de journée, évidemment par les médecins. En tout cas, le message de Donald Trump, et qui apparaissait d'ailleurs sur Twitter ce matin, puisqu'il a écrit une série de messages en lettres majuscules, le message qu'il souhaite faire parvenir aux Américains, c'est « je suis en forme, je peux revenir à la Maison Blanche », où il restera évidemment en quarantaine et toujours soigné.
Anne Desine, d'un point de vue institutionnel, le président est toujours aux commandes, commandes qu'il n'a d'ailleurs jamais lâchées.
Oui, et il n'a pas l'intention de les lâcher. Alors c'est intéressant, il y a un amendement, le 25e amendement, qui a été adopté en 19 et ratifié en 1967. Et dans ce type de situation, il faut y penser. Cet amendement prévoit plusieurs choses, mais il prévoit qu'en cas d'incapacité, qui peut être temporaire comme une opération, on en avait parlé aussi en 1981 lors de l'attentat contre Ronald Reagan. Il est prévu donc dans ces situations que le pouvoir passe temporairement au vice-président qui assume la fonction de président et ensuite dès que le président va mieux, il reprend ses fonctions. Mais il y a aussi un autre paragraphe dans ce même amendement qui prévoit que si le président est incapable, il n'est pas en capacité de gouverner mais qu'il ne le reconnaît pas, il pourrait y avoir, sous l'égide du vice-président, une sorte de bronca pour dire qu'il n'est pas en mesure de gouverner. Compte tenu du caractère extrêmement soumis du vice-président Pence vis-à-vis de Trump, qu'il porte au nu en permanence, j'imagine peu cette deuxième situation. Et de toute façon, on nous ment beaucoup. Là, il est assez difficile de savoir quel est l'état de santé réel du président à l'heure actuelle.
Steven Ekovitch, la situation actuelle est-elle comparable à quelque chose qu'on a déjà connu? C'est-à-dire qu'on est quand même dans la situation d'un président malade d'une maladie qu'on ne sait pas soigner en pleine campagne pour sa réélection?
En pleine campagne, je ne crois pas. Mais dans le temps, très souvent, il y avait des présidents qui étaient atteints des infirmités. Le plus célèbre, c'est Woodrow Wilson qui a souffert un AVC. Et pendant longtemps, c'était son épouse.
C'est sa femme qui dirigeait
les États-Unis. Donc on a d'autres cas, bien sûr Ronald Reagan, où il a volontairement cédé le pouvoir provisoirement au vice-président. John Kennedy aussi, qui était sous médicaments. On a souvent, je dirais même systématiquement, caché un peu la vérité de la santé des présidents. Donc ça, c'est pas nouveau, qu'on veut pas révéler complètement toutes les données médicaux d'un président.
Et compte tenu de ce qui s'est passé en France avec Mitterrand, nous n'avons rien à envier ou critiquer.
Oui, Anne Corpet, on peut parler, disons, à minima, je ne sais pas si j'irai aussi loin que Anne Desine sur le côté « on nous ment beaucoup », mais on peut parler à minima de cacophonie sur l'état de santé du président.
Ah, c'est certain qu'il y a eu une grande confusion dans la communication à la fois des médecins et de la Maison Blanche. Par exemple, on ne sait toujours pas d'ailleurs quand date le dernier test négatif de Donald Trump. On a eu le test positif jeudi soir dans la nuit, mais on ne sait pas de quand date le dernier test négatif. Il y a eu le fait qu'il a été mis sous oxygène dès vendredi à la Maison Blanche, qui a d'abord été tu. On ne l'a appris que dans la journée de samedi. Et puis, les médicaments qu'il prend sont tout de même assez inquiétants, hein, ces stéroïdes notamment, qui sont normalement donnés aux malades sérieusement atteints par le coronavirus. Et de l'autre côté, cette manière qu'a Donald Trump de pérorer, d'assurer qu'il est en pleine forme. Il publie des vidéos sur Twitter. Il est sorti hier dans sa voiture pour aller saluer les fans, hein, qui sont toujours là. Je les ai vus ce matin, venus pour adresser leurs prières et leurs vœux de prompt rétablissement.
Ils veillent, ils y ont passé la nuit.
Non, alors j'en ai pas vu qui ont passé la nuit, mais ils étaient là dès 8h ce matin. Ils rentrent se coucher la nuit et ils reviennent le matin. Et eux ont trouvé formidable que le président sorte de sa suite présidentielle de l'hôpital Walter Reed pour venir les saluer. Mais les médecins, et notamment un médecin de Walter Reed, se sont insurgés. Et l'un des médecins donc de cet hôpital militaire a dit que c'était complètement irresponsable. Et les secrets de service, vous savez, ce service qui est chargé d'assurer la protection du président, les secrets de service ont aussi protesté parce qu'évidemment, il y avait plusieurs membres des secrets de service dans la voiture avec Donald Trump. Même si celui-ci portait un masque, c'était exposé, ces membres des secrets de service, au coronavirus.
Cette cacophonie et même cette mise en scène, je vais encore un peu plus loin dans votre sens, Anne-Lézine, parce qu'il y a quand même de la mise en scène, vous allez peut-être y revenir. C'est en train de devenir un thème de campagne, de la campagne, un thème politique dans le débat américain?
Alors, c'est vrai que les présidents ont toujours menti et Trump a toujours menti, un petit peu plus. Hein. Plus de 20 000 mensonges, on en était à plus de 20 000 avant ce qui se passe récemment. C'est difficile pour le camp Biden, parce que vous avez remarqué, il critique déjà moins le président. À partir du moment où le président Trump est à l'hôpital, il ne peut pas se permettre d'être aussi dur. À la limite, d'ailleurs, il n'a pas besoin. Le fait que la Maison-Blanche soit en panique et que tous les jours on apprend que de nouveaux membres de la Maison-Blanche sont infectés, c'est quand même quelque part, sauf pour la base irréductible, ceux qui campent pour apercevoir le président, c'est la preuve de l'échec total de la présidence Trump pour faire face à ce virus. Mais c'est en fait essentiellement la résistance du président. Pour lui, c'est une sorte de blessure narcissique d'admettre qu'il a le virus. Donc il ne peut pas accepter ce qu'a dit son chef de cabinet à un moment, à savoir que ses chiffres étaient très très mauvais et que la Maison-Blanche s'était fait du souci. Mmh. Et puis ensuite, il a dit au médecin, mais il n'est pas question que vous disiez la vérité. D'où ces espèces d'atermoiements, les médecins qui n'osent même pas dire, alors qui utilisent des phrases pour ne pas mentir en direct en disant, mais il n'est pas sous oxygène aujourd'hui, mais sans dire qu'il était sous oxygène la veille. Donc c'est compliqué, il y a une perte de confiance du peuple américain, et les fameux indécis, les 5% qu'il faudrait convaincre, se disent peut-être que ce sera une bonne idée qu'il guérisse et puis que l'élection lui dise de partir.
Stephenekovitch, sur cette cacophonie, sur ces ordres et contre-ordres, et égal désordre, comme on dit dans l'armée française en général, qu'est-ce que vous pouvez ajouter?
L'hiérarchie à l'hôpital Walter Reed est assez curieuse parce que ce sont des militaires. Les médecins. Oui. Et qui est le chef des armées? C'est le président. Donc, si vous êtes médecin et vous recevez un ordre direct de votre supérieur hiérarchique, qui est le président, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, voilà. Les médecins militaires à Walter Reed sont coincés par cette ambiguïté, cette floue, dans l'hiérarchie.
Ouais. Anne Corpé, on va le préciser, on va l'ajouter d'ailleurs. Donald Trump n'est pas le seul à la Maison-Blanche et parmi les républicains à être contaminé par le coronavirus. C'est un problème. Est-ce que la Maison-Blanche est désorganisée? Est-ce que le camp républicain est désorganisé?
Complètement. Là, on vient d'apprendre ce matin que Kelly McEnany, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, a été testée positive au coronavirus. C'est la 28e personne infectée, j'allais dire, dans l'orbite de la présidence. Il y a 3 sénateurs, et là, c'est très inquiétant pour le camp républicain qui voulait confirmer au plus vite la juge désignée par Donald Trump à la Cour suprême. Comme vous le savez, savez, il y a deux sénatrices républicaines qui ont dit qu'elles ne souhaitaient pas voter. Donc, ils n'ont pas les votes à l'heure actuelle si ces sénateurs malades ne peuvent pas se présenter. Il y a évidemment donc Melania Trump qui est malade. Il y a Kellyanne Conway aussi, une conseillère de
Trump. Hope X également.
Hope X également. Et
Chris Christie.
Chris Christie, et je vous parle même pas des journalistes du Pool Press de la Maison Blanche. Il y en a déjà trois de malades. Et là, on vient d'apprendre encore deux autres membres du personnel qui sont touchés. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune stratégie mise en place. C'est-à-dire que la porte-parole qui a annoncé aujourd'hui sa positivité au coronavirus s'est hier exprimée devant les journalistes sans porter de masque. Or, elle fréquentait Hope X, elle fréquentait Donald Trump, elle ne s'est pas placée en quarantaine et elle n'a pas pris les mesures de protection élémentaires. Il n'y a pas de consigne de port absolu du masque pour le personnel de la Maison Blanche, parce que le masque, pour le président, c'est un signe de faiblesse. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Joe Biden pendant le débat mardi dernier.
Anne Desin, le centre névralgique de la première puissance du monde, et désorganisé. C'est là qu'on en est actuellement.
Oui, à tel point que les services de sécurité, certains sénateurs, certains républicains considèrent que c'est un véritable risque pour la sécurité nationale, car des puissances malfaisantes, suivez mon regard, la Russie, la Chine, l'Iran, pourraient profiter de ce moment de désorganisation pour tenter quelque chose.
Vous êtes spécialiste des relations internationales, Stefanikovitch, ça pose un problème, là, en dehors même de la campagne.
Bien sûr, et c'est clair et net. Chaque fois qu'il y a une vulnérabilité, une fragilisation de l'exécutif, qui est toujours un risque des puissances hostiles aux États-Unis, peuvent tenter d'en profiter.
Alors on va revenir quand même sur la campagne directement. Situation inédite, donc, on le dit depuis le début de cette émission et depuis tout le week-end, Anne Desin, et conséquence qu'il est difficile d'évaluer. Et il y en a une qui est concrète, c'est que le camp démocrate, Joe Biden en tête, a levé le pied sur les attaques contre le président, les messages négatifs en tout cas.
Oui, en revanche, le camp démocrate se décide à faire campagne un peu comme d'habitude, avec le masque certes, qui est devenu d'ailleurs un symbole politique, ce qu'il ne devrait pas être. Et le camp démocrate a décidé d'envoyer les volontaires à nouveau faire du porte-à-porte pour essayer de convaincre les électeurs, peut-être de venir voter en personne, ou bien s'assurer qu'ils ont bien compris comment ils pouvaient voter par correspondance. Et Joe Biden, avec son masque et avec des précautions, va faire un certain nombre de meetings de campagne. Alors ce qu'il faut noter, c'est en partie le résultat de la décision des républicains de nommer très très vite un successeur à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, mais les démocrates, et en particulier Joe Biden, qui n'avait pas beaucoup d'argent pendant les primaires, ils ont collecté 100 millions de dollars en une semaine. Donc là, nous avons un rapport de force inversé, c'est le camp Trump qui manque d'argent et qui n'a pas son fundraiser principal, parce que dans ces meetings, en fait, ils collectent beaucoup d'argent, mais ils sont en train d'envoyer des messages en disant aidez le président, et ça va permettre de leur demander de l'argent à ces partisans de Trump et essayer de rétablir un petit peu ce déséquilibre financier.
D'ailleurs, Anne Corpey, Donald Trump était allé quelques heures avant son contrôle positif faire une levée de fonds dans un de ses golfs dans le New Jersey. Est-ce qu'il a mis en danger ses partisans ?
C'est la grande question. Mais alors, quand on discute avec ses partisans, j'étais ce matin devant l'hôpital, la plupart ne portent pas de masque. Et
J'espère que vous restez à distance, Anna, on a besoin de vous.
À distance et moi masquée. Mais je ne sais pas, il y a une forme d'inconscience, de déni. Ils souhaitent le voir reprendre la campagne au plus vite. Ils souhaitent retourner le voir en meeting. Ils disent que, de toute façon, le taux de mortalité a baissé avec le coronavirus, que Trump est quelqu'un de très fort, qu'il est solide, que bon, d'accord, il a 74 ans, mais enfin qu'il a une énergie hors du commun, et il le voit comme une sorte de surhomme, et il n'attend qu'une chose, c'est de retourner le voir faire son show, parce que ce sont des shows, les meetings politiques de Donald Trump. Je voulais ajouter une chose qui est sortie ce matin, qui est assez étonnante, hein, c'est la manière dont le camp républicain exploite la maladie de Donald Trump. Ce matin, la porte-parole de sa campagne a affirmé que puisque le président a eu le coronavirus, eh bien, cela prouve qu'il est mieux placé que Joe Biden pour lutter contre la pandémie, car il en a maintenant une expérience dans sa chair. Et d'ailleurs, le président hier l'a dit, hein, dans la petite vidéo qu'il a sortie dans la soirée, j'ai beaucoup appris sur le Covid-19.
Alors, il y a une autre désinformation qui est incroyable, c'est-à-dire ils sont tous sur Fox News en train de dire « Vous voyez bien, si le président, qui est l'homme le plus protégé du monde, a attrapé le virus, c'est que ça ne sert à rien de mettre le masque et ça ne sert à rien de fermer l'économie. » Ce qui est quand même un exemple de mauvaise foi fondamentale, mais que les partisans acceptent.
Mais il faut savoir si ça va vraiment convaincre. Évidemment, chaque camp met son spin sur des informations. Et de toute façon, après le premier débat, Joe Biden a déjà pris quelques points d'avance. Il était sur le plan national 14 points d'avance. Et ça, c'est avant la crise de coronavirus du président.
Justement, est-ce qu'il y a des sondages qui ont été faits depuis vendredi soir? Non, pas encore.
C'est trop tôt. Mais déjà, le fait que Biden est de loin devant Trump, même dans les États clés des États swing states, montre que le président Trump a un travail très très dur à remonter le pont.
Anne Corpet, les conséquences sont évidemment difficiles à mesurer. Hein. Je ne sais pas si des sondages, donc apparemment non.
Il y a un sondage qui est très intéressant, alors qui date d'avant l'annonce de la maladie du président, mais qui date d'après le débat. Et qui montre qu'avant le débat, et il s'agit d'un sondage fait auprès des personnes de plus de 65 ans. C'est un électorat qui a toujours, enfin depuis au moins une décennie, voté républicain. Or, avant le débat, déjà, Trump était en perte de vitesse, puisque Biden avait 4 points d'avance chez ces personnes de plus de 65 ans. Après le débat, il en avait 27, c'est-à-dire une large avance de Joe Biden vis-à-vis de Donald Trump. Et sans doute que la question du coronavirus est au cœur de cette désaffection des personnes âgées vis-à-vis du président, parce qu'elles sont elles-mêmes très vulnérables et elles doivent se sentir un petit peu abandonnées par Donald Trump dans ce combat contre la pandémie.
Anne-Lézine.
Et peut-être autre chose aussi. Il y a les personnes âgées, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais il y a aussi les gens qui se disent, nous, on n'a pas tous les médecins de Walter Reed, et en plus, les républicains veulent nous prendre notre assurance santé. Car quand même, ça commence à percuter qu'ils essaient non seulement par la voie législative, mais qu'une semaine après l'élection, le 10 novembre, va venir pour la énième fois devant la Cour suprême la question de l'inconstitutionnalité de la loi santé ACA ou Obamacare. Et donc, et ça fait partie des deux choses que Biden a réussi à dire dans le chaos total du débat. Il a dit « votez, votez, votez », mais il a aussi dit « attention, les républicains veulent supprimer la loi santé, la couverture dont vous bénéficiez en pleine pandémie ». Et ça, je pense que c'est en train de...
Stephen Ekovitch, c'est en train de revenir au centre du débat, parce que ça fait des années, en fait, que ces questions de couverture santé sont au centre du débat aux États-Unis.
Bien sûr, ça va de pair avec le fait que maintenant, la question de Covid est devenue la question primordiale dans la campagne. Parce que Trump voulait mettre l'accent sur l'économie. Mais c'est maintenant très difficile, même impossible. C'est très difficile à voir. Imaginez comment cette crise de Trump lui-même et de Covid peut aider le candidat à la réélection, le président à la réélection. C'est très difficile à concevoir.
Anne Corpet, est-ce que ça demande de la réorganisation aux démocrates? C'est une situation qui n'est pas évidente à gérer quand même.
Ce qui est très étonnant, c'est vraiment, Anne-Désine en parlait tout à l'heure, c'est le renversement de la campagne. C'est-à-dire que pendant des semaines, on a vu Donald Trump railler, moquer le candidat démocrate parce qu'il prenait des précautions, parce qu'il était dans sa cave, dans le Delaware. Et aujourd'hui, c'est Trump qui est empêché, qui n'a pas le droit de sortir, qui ne peut pas se produire devant ses supporters. Et Joe Biden, aujourd'hui en Floride, un État clé, un État où le coronavirus a explosé, et Joe Biden qui parcourt le pays, quoi. Donc il y a vraiment un renversement de la campagne. Bon, cette campagne est tellement dingue, j'allais dire, qu'on ne sait pas du tout comment ça peut tourner.
Oui, c'est ce que
maintenant, je me garde bien.
C'est ce que je disais, on n'est peut-être pas à la première surprise, à la dernière surprise d'octobre. Anne Desine, Donald Trump, lui, il doit théoriquement se reposer, il se repose d'ailleurs peut-être un petit peu, mais il continue quand même à communiquer de différentes manières. Il reste en campagne.
Oui, mais c'est
se défiler devant ses partisans, ses tweets.
Alors, mais quand même deux choses.
Rafale de tweets.
Pendant 18 heures, il n'y a pas eu de tweet. Donc ça veut dire qu'il devait vraiment pas être en forme. Ça, c'est petit un. Et petit deux, quand il a fait son tour avec le service secret, bon, les médecins militaires ont beau obéir, il a été obligé de mettre le masque. Donc il avait le masque. Les pauvres personnes du Secret Service, bon, j'espère, n'ont pas attrapé le Covid. Ils avaient le masque aussi à l'avant. Mais à l'arrière, il a été obligé de mettre le masque. Donc quand même, il est rattrapé par le principe de réalité. Et il a beau jouer à l'homme invulnérable. D'ailleurs, parmi toutes les choses bizarres de la communication. Les traitements, qui sont des traitements de stade expérimental qu'il prend, théoriquement, on doit les prendre sous surveillance médicale totale. Alors certes, il peut être surveillé à la Maison-Blanche, mais quelque part, comme il a commencé à prendre deux traitements que je n'essaierai même pas de prononcer et qui nécessitent 5 jours, il devrait rester à l'hôpital. Mais il a tellement envie de revenir dans les choses, sauf qu'en fait, le personnel de la Maison-Blanche qui n'a effectivement aucune consigne. Ils ne savent pas et ils commencent à paniquer. Ils se rendent compte que finalement, il y a un virus, que c'est dangereux, qu'on ne leur dit rien, qu'ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a toujours pas vraiment de test ni de tracing. On ne sait pas qui a rencontré qui. Et par conséquent, il n'y a aucune prévention pour dire « Attention, vous avez vu telle personne, on a appris que... » Donc, il y a un petit vent de panique qui est dans l'équipe de Trump.
Stephen Ekovitch, on sent quand même que Donald Trump, même s'il est empêché physiquement, il a envie d'y aller, il a envie de retourner à la Maison-Blanche.
De toute façon, une présidence de nos jours, c'est une mise en scène permanente, c'est une performance. On est dans le spectacle politique sans fin. Et Donald Trump, il joue d'une certaine façon aussi Biden, son rôle, c'est de la prudence, la calme, la rassurance. Par rapport à Trump, dans les semaines là qui courent, c'est une posture qui est plus portante que la posture de Donald Trump.
Mmh. Quel camp est le plus gêné ou le plus avantagé par cette situation? Parce qu'il faut que tout le monde se réadapte dans des conditions un peu étonnantes, Anne Corpet.
Moi, j'ai l'impression que le plus avantagé, pour l'instant, c'est le camp démocrate. Leur stratégie de campagne, qui a été effectivement très à minima pendant des mois, a servi Joe Biden. Parce que Donald Trump, tout seul, en fait, s'est tiré des balles dans le pied avec des déclarations des débordements dont il est coutumier, avec les manifestations Black Lives Matter aussi et sa manière de se mettre en scène, par exemple, quand il a fait évacuer la foule devant la Maison-Blanche. Pendant tout ce temps-là, Joe Biden était invisible, mais Donald Trump chutait progressivement dans les sondages. Maintenant qu'on arrive au dernier mois de campagne, il était nécessaire que Joe Biden revienne sur le terrain, qu'il puisse être vu par les Américains, parce que sinon, la rhétorique de Donald Trump sur Joe Biden est sénile, il se cache, il n'est pas capable de s'exprimer en public, risquait de trouver un écho quand même. Donc maintenant, Joe Biden est sur le terrain et je pense que aussi les chiffres de la progression de la pandémie montrent l'échec de la stratégie de l'administration américaine pour lutter contre le virus et notamment la réouverture un peu trop hâtive de l'économie, des écoles, des universités, a entraîné de nouvelles augmentations. Par exemple, le Wisconsin, là, est en train de connaître un rebond formidable du nombre de contaminations. Or, c'est évidemment un état crucial pour Donald Trump.
Anne Desine.
Oui, je réfléchissais qu'en fait, un moment clé, ça va être le débat entre les vice-présidents.
J'allais en parler.
Parce que c'est en fait le seul vrai débat qui va se produire, même s'il y a de nouveau des débats présidentiels, on pense qu'il y aura surtout des insultes. Et ça sera surtout intéressant parce qu'on a d'un côté un homme, un peu vieux, blanc, très conservateur, et de l'autre côté, on a une femme, noire, lawyer et procureur de formation, juriste, etc., progressiste, et qui sait bien débattre. Et si elle réussit à faire passer les idées sur la santé, les idées sur le programme d'égalité raciale, etc., ça peut être intéressant. Ça sera sans doute la seule chance des électeurs, sauf s'ils ont lu le Washington Post hier dimanche, qui a fait un très bon récapitulatif des positions des deux partis sur à peu près tous les sujets. Ce sera la seule chance pour l'électeur d'avoir une petite idée de où se tient le camp Biden, qui n'est pas à l'extrême gauche et qui est en faveur de l'Américain moyen, que ce soit en matière fiscale ou en matière de santé.
Stefanikovic, oui. Le débat des vice-présidents, enfin des candidats à la vice-présidence, prend effectivement encore plus d'importance que qu'il n'en avait déjà, parce que c'était déjà important. Hein.
Bien sûr, mais je dirais même plus. Il faut pas perdre de vue toutes les élections sénatoriales, parce que la chute dans les sondages de Donald Trump plombe quelques candidats clés dans les élections sénatoriales. Aujourd'hui, on peut dire que vraisemblablement, les démocrates vont reprendre la majorité au Sénat. Et si Joe Biden est élu président, si les démocrates regagnent la majorité au Sénat, et si ils continuent, s'ils détiennent la majorité,
la chambre,
ils auront tout raflé du pouvoir fédéral. Donc, il faut aussi pas oublier ces 6, 7, 8 élections sénatoriales qui peuvent faire basculer la majorité au Sénat.
Ryan Corpès, ce débat vice-présidentiel, c'est comme ça que j'allais l'appeler, il était déjà important avant parce que Joe Biden a dit qu'il ne ferait qu'un mandat, et puis juridiquement en tout cas Donald Trump n'en avait plus qu'un éventuellement à faire, donc c'était déjà quelque chose d'important, ça pouvait être l'avenir, le changement dans les années qui viennent, et ça renforce l'importance de ce débat.
Oui, alors Joe Biden est revenu sur cette affirmation qu'il ne ferait qu'un mandat parce que ça lui nuisait, ça l'a fait apparaître comme quelqu'un d'un peu affaibli ou du moins fragile. Ce qui est certain, c'est que Kamala Harris est une excellente débatteuse. Elle l'a prouvé d'ailleurs
face à Joe Biden,
lors du premier débat des primaires démocrates à Miami. Je pense que ça aura effectivement un impact fort sur le fond, parce que effectivement c'est le seul lieu où les Américains pourront écouter les deux versions, si vous voulez, de l'Amérique proposée, parce que les Américains aujourd'hui ne boivent qu'à une seule source. Soit ils sont partisans de Donald Trump et ils regardent Fox News et uniquement Fox News, soit ils détestent Donald Trump et ils regardent CNN ou MSNBC. Et donc ils n'ont pas accès finalement à la parole de l'autre camp, et ces débats qui sont retransmis par toutes les chaînes de télévision sont l'occasion pour l'électorat d'entendre les deux camps à armes égales au même moment, et c'est pour cela qu'ils sont très importants, et c'est pour ça qu'il était très regrettable que le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump ait donné lieu à une telle cacophonie.
Stefanikovic.
Oui, puisqu'un débat, c'est moins un débat encore une fois qu'un théâtre politique, et le débat entre les candidats à la vice-présidence va aussi être une performance politique, il faut quand même que Kamala Harris fasse attention. Il ne faut pas que cette dame tabasse trop l'homme blanc conservateur. Donc, il faut qu'elle mette en avant les questions, les politiques publiques, mais il faut qu'elle fasse très, très attention à cette côté performance politique.
Il ne faut pas qu'elle fasse peur, Anne-Désy, non ?
Oui, oui, d'autant plus qu'il y a quand même toujours ce fond de sexisme. Hein. Ce qui est acceptable chez un homme, si elle est un peu percutante, peut-être sarcastique, ou ça sera considéré comme quelque chose de critiquable. Mais je pense qu'elle est intelligente, elle est consciente de ça. Elle sait aussi que c'est sa chance de se montrer présidentielle, de montrer qu'elle est capable de maîtriser tous les sujets, y compris un peu de politique étrangère. Et être présidentielle, à la différence de Trump, c'est justement parler de façon posée, ne pas attaquer bille en tête Mike Pence. Mais ce sont vraiment deux visions de l'Amérique totalement opposées. Hein, parce que Pence est très, très conservateur.
Merci, Anne-Désy. Merci Steven Ekovic et merci Anne Corpet d'avoir pris le temps dans une journée particulièrement chargée d'être en direct avec nous de Washington. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et tout le service documentation d'ailleurs, et à la réalisation aujourd'hui Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.